delta. J'ai un joli delta. J'ai un joli delta.
Vous êtes toujours sur les formidables bandes continues de Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et on vient d'écouter SMB, sans mise en bière, avec le morceau Verlaine.
Colette Renard avec Les Nuits d'une Demoiselle.
Pour terminer, par Brigitte Fontaine et Delta, Radio Canu, la radio la plus...
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pack en fait. Si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter la faute.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Canu Info.
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous écoutez le Canu Info du lundi avec un petit peu de retard, mais on est là et tout de suite on passe au titre. Et donc c'est moi qui commence d'ailleurs. À l'international, on parlera de la Guadeloupe où il y a une grève générale fortement réprimée. Et puis on partira en Chine pour parler de la disparition d'une joueuse de tennis chinoise.
Au national, on aura un sujet sur la multiplication des mouvements de grève pour l'augmentation des salaires cet automne. Et un sujet sur l'attaque, une fois n'est pas coutume, de l'extrême droite à Paris contre la manifestation nationale contre les violences patriarcales.
Et au local, on fera un point sur la situation de la place du Pont à la Guillotière. Et on commence tout de suite par...
Par les brèves, donc. Et une première brève pour souhaiter la bienvenue au pronom « Yel » dans le dictionnaire Le Robert. Pour rappel, un dictionnaire ayant pour fonction de recenser et d'expliquer le sens des mots attestés dans l'usage.
Il y a toute sa place, n'en déplaise à ceux qui voudraient nous faire croire qu'une langue vit et évolue par le biais des académiciens. C'est bien celles et ceux qui la parlent, qui la font vivre et évoluer, qui créent la langue. Et si un mot existe, il existe tout simplement. Et la censure lexicale que se sont mis à demander de nombreux hommes politiques est inquiétante. Et pour finir cette brève, une petite info pour Brigitte Macron, qui a répété en boucle devant les caméras qu'il n'existait que deux pronoms, il et elle apparemment. Et bien en fait, il en existe beaucoup plus, car hormis « yel », il y a aussi « je », « tu », « nous », « vous », etc.
Et on enchaîne sur les brèves avec des cheminots et cheminotes qui dénoncent dans un article sur Révolution Permanente le racisme de certains délégués syndicaux Force Ouvrière à la SNCF. Des captures de leur compte Facebook montrent différents messages, tous plus dégueulasses les uns que les autres, comme « ils décapitent nos professeurs et nous on va devoir enseigner l'arabe, pays de cons » ou « ceci est mon drapeau, si tu ne l'aimes pas, je t'aide à faire tes valises » ou encore « ma France c'est le cochon, le pinard, la musique, la fête, c'est aussi Jésus, Noël, les crèches, les églises, Pâques, pour ceux que ça dérange, les frontières sont ouvertes ». Super message donc relayé par des délégués syndicaux FO à la SNCF et c'est pas la première fois que de tels faits sont rapportés. Déjà en 2012, Mediapart avait réalisé une enquête sur des comportements racistes et homophobes de délégués syndiqués FO à la SNCF Montpellier. Les cheminots et cheminotes qui ont dénoncé ces publications rappellent que les idées d'extrême droite n'ont pas leur place au sein des organisations du mouvement ouvrier et que tous les militantes et militants syndicaux doivent combattre les idées racistes et réactionnaires qui divisent les travailleurs.
Et puis à Lyon, nouveau squat depuis samedi à la Croix-Rousse. C'est place Chardonnay et dans un immeuble vide appartenant aux Hospices Civils de Lyon. Il répond aux besoins urgents de jeunes mineurs isolés qui, n'ayant pas de toit depuis plusieurs mois, s'étaient installés dans les pentes de la Croix-Rousse. Une mobilisation s'est d'abord créée autour d'eux pour leur apporter à manger et alerter les pouvoirs publics afin de leur trouver un toit, alors que l'hiver et le froid de l'hiver surtout est déjà là. Restant sans réponse de Grégory Doucet, les soutiens ont décidé d'ouvrir ces bâtiments vides. Ironie du sort, c'est Grégory Doucet qui, en tant que maire de Lyon, assure la présidence des Hospices Civils de Lyon. Peut-être que ça attirera enfin son attention et qu'il prendra des mesures pour fournir un toit pérenne à tous ces mineurs.
Et on passe tout de suite à...
International.
International.
Donc avec la Guadeloupe pour commencer.
Ouais, alors évidemment, on va parler de la situation en Guadeloupe, cette colonie française composée de 7 îles situées dans le sud de la mer des Caraïbes. Donc, cette colonie est officiellement un DROM, un département et région d'outre-mer, mais elle ne représente définitivement rien d'autre qu'une colonie pour l'État français, et on va voir pourquoi. Depuis la semaine dernière, une bonne partie de la Guadeloupe est en feu, en grève et bloquée. Au cœur des revendications, certes, il y a le refus du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale qui touche les pompiers et les soignants-soignantes. C'est d'ailleurs, entre autres, du secteur hospitalier et du secteur des pompiers qu'est partie la grève, rapidement suivie par des blocages routiers, il y a 5 jours. Mobilisation qui s'est tout de suite étendue à l'éducation nationale, aux travailleurs et travailleuses des stations-service, de la restauration et de l'hôtellerie. Ce qui a très vite enclenché des blocages de stations-service, en plus des barrages routiers, avec des pneus, des chaises, des tables, du matériel de chantier, bien souvent enflammé. Cette colère exponentielle, qui n'a vu en face, dès le début, que la répression violente et systématique des forces de l'ordre coloniales, a dépassé le cadre de la grève et des blocages en incendiant des voitures, des engins de chantier, ou en faisant massivement recours aux autoréductions ou au pillage, comme en 2009. Car il est bien là aussi le véritable problème en Guadeloupe. Depuis le début de l'épidémie, la population vit sous état d'urgence sanitaire, au rythme d'un couvre-feu quasi permanent. Dans certains quartiers des plus grandes villes, et en premier lieu Pointe-à-Pitre, il n'y a plus d'électricité ni d'éclairage public depuis 6 mois. Depuis des années, il y a des coupures d'eau, parfois pendant une semaine. L'autorité coloniale délaisse certains quartiers, parfois pendant plusieurs semaines, pour y ramasser les ordures. Depuis le début de la crise sanitaire, la pauvreté et la grande pauvreté ont littéralement explosé chez les enfants et adolescents, qui représentent quand même 20% de la population totale. 35% sont dans une situation de pauvreté ou de grande pauvreté. C'est tout simplement énorme, et bien sûr, tout ça ne concerne que très peu, voire pas du tout, les métropolitains résidant en Guadeloupe. Quant au système de soins, la différence avec la métropole est elle aussi énorme. 48 lits pour 100 000 habitants, contre 60 pour l'Hexagone, soit 20% de moins. La crise sanitaire a été gérée de manière beaucoup plus violente, raciste et autoritaire. Ça n'explique sans doute pas tout, mais ça explique en partie pourquoi la population guadeloupéenne est réfractaire aux injonctions de l'État colonial en ce qui concerne la vaccination. Selon les chiffres les plus récents, 46% des Guadeloupéens et Guadeloupéennes majeurs sont vaccinés contre 90% nationalement. L'application du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale a été une véritable catastrophe dans le secteur hospitalier. Rien que pour le CHU de Pointe-à-Pitre, par exemple, 566 suspensions provisoires de contrats ont été prononcées depuis le début, renforçant de manière considérable la charge de travail des personnels soignants, la tension hospitalière et donc le nombre de morts en soins intensifs. C'est aussi de là que vient toute cette colère, transformée en grève quasi générale, en émeute, en blocage depuis plusieurs jours, contrairement aux propos de Macron, du gouvernement, massivement relayés par leurs chiens de garde, les médias français. Entre injonction, retour au calme, infantilisation et menace, l'État colonial ne répond que par le mépris et la force. Pour enrayer le mouvement et s'éviter un nouveau 2009, Macron, Darmanin et consorts ont décidé d'envoyer de nombreux renforts policiers et militaires depuis hier, notamment avec l'envoi, entre autres, des forces spéciales comme le RAID et le GIGN, l'État colonial dans toute sa splendeur. Sauf que ce mouvement est animé par une rage aux racines anciennes et profondes, et que ce n'est évidemment pas par la force que l'État français convaincra les Guadeloupéens et Guadeloupéennes non vaccinés d'aller se faire vacciner. Bien au contraire, C'est ce renforcement toujours plus autoritaire de la gestion et de la crise en Guadeloupe ne va faire que renforcer la défiance et la haine entièrement légitime des Guadeloupéens et Guadeloupéennes vis-à-vis de l'État français colonial, si vous ne l'aviez pas encore compris.
Et à l'international, toujours, on enchaîne avec un sujet sur la disparition d'une joueuse de tennis chinoise.
Oui, voilà. Et donc, on va parler un petit peu à la fois du totalitarisme chinois, dont on oublie peut-être parfois un peu les implications concrètes sur la population, et de où en est la Chine à propos du féminisme. Et on va parler de tout ça en s'intéressant donc à la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai, une joueuse reconnue puisqu'elle détient 14 titres à l'international et qu'elle a notamment remporté Roland-Garros en 2014. Mais si on parle d'elle aujourd'hui, c'est parce que le 2 novembre, elle a publié sur Weibo, un réseau social chinois, une accusation de viol à l'encontre d'un homme politique aujourd'hui à la retraite, Zhang Gaoli. Son post est assez long, elle y raconte sa rencontre avec l'homme, ainsi que la façon dont il la force à coucher avec lui, avec la complicité de sa femme. C'est un peu glauque. Et le problème, c'est que Zhang Gaoli, ce n'est pas un homme politique lambda. Avant d'être à la retraite, il était membre du comité permanent du bureau politique de la République populaire de Chine, soit la plus haute entité politique en Chine. Il était aussi vice-premier ministre de 2013 à 2018. Et donc, cette accusation de viol sur un réseau social, elle s'en prend à un personnage important du pouvoir chinois, et le pouvoir a réagi comme à chaque fois que quoi que ce soit arrive qui le remet en cause. D'abord, la suppression du poste d'Internet, et puis surtout la censure de tous les mots pouvant faire référence à cette histoire. Dans un même temps, lorsque des utilisateurs de Weibo, le réseau social chinois, font des recherches du type tennis, par exemple, la recherche ne passe pas par l'algorithme habituel, mais mène à des résultats prédéfinis, ce et qui exclut donc de tomber sur quoi que ce soit d'incontrôlé. Et enfin, la personne responsable de l'accusation est enlevée. Le mot est bien choisi, et c'est vraiment ce qui se passe régulièrement en Chine. Peng Shuai, donc notre joueuse de tennis, a disparu peu après la publication de son témoignage. Récemment, des médias chinois, notamment la version internationale de la télévision d'État chinoise CCTV, après que des dirigeants internationaux se soient inquiétés de sa disparition, ont publié une capture d'écran de téléphone où elle souhaiterait, par SMS, un bon week-end à des amis, puis une courte vidéo où elle serait dans un restaurant avec des amis toujours. Deux preuves, entre guillemets, jugées assez peu crédibles. On ne comprend en effet pas pourquoi elle ne donne pas de nouvelles elle-même sur ses réseaux sociaux. Et la conversation filmée dans un restaurant sonne faux. Peng Shuai ne prend pas la parole et ses amis insistent énormément sur la date du jour, un peu comme s'ils savaient que cette vidéo devait prouver que Peng Shuai était vivante au jour d'aujourd'hui. Et encore une fois, on ne comprend pas trop comment des médias auraient accès à cette vidéo que Peng Shuai elle-même n'a pas publiée. Alors, Peng Shuai, elle n'est certainement pas morte. Par contre, elle est certainement enfermée sans jugement et dans des conditions inconnues. Et il est aussi certain qu'elle reprendra la parole un jour pour s'excuser de son accusation et dire qu'elle aurait menti. Bref, ça en dit long sur l'autoritarisme chinois qui est capable d'écraser la parole et l'existence de n'importe qui en Chine. Ce qui arrive à Peng Shuai arrive régulièrement à des gens plus ou moins connus et sans exclure des gens considérés comme puissants. Puisqu'on se souvient de la disparition de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, soit l'équivalent chinois d'Amazon. Jack Ma qui par ailleurs est loin d'être un camarade, mais il avait publiquement critiqué le gouvernement chinois, notamment sur le système bancaire. Et après avoir disparu, il a réapparu 3 mois plus tard, dans une vidéo où il vante l'implication du gouvernement chinois pour éradiquer la pauvreté. Mais dans ce cas, c'est une femme qui dévoilait un viol qui a été victime du système répressif chinois. Alors, sur ces sujets, on en est où en Chine ? Eh bien, il faut savoir que dans toute l'histoire du Parti communiste chinois, seules 6 femmes ont été admises au bureau politique. Et la moitié d'entre elles étaient des épouses de dirigeants. Actuellement, il n'y en a qu'une seule, donc pour 24 hommes, et aucune dans le bureau permanent. Dans le comité central, donc chargé de nommer le bureau politique, sur ses 376 membres, il y a 10 femmes. Ce sont donc des hommes qui pilotent l'appareil politique chinois et qui ont tous les pouvoirs. Le comité central et le bureau politique n'ont jamais été très progressistes en matière d'égalité homme-femme, et c'est encore moins le cas depuis que c'est Xi Jinping qui est aux commandes. Celui-ci assume et exprime régulièrement des positions sexistes, assignant les femmes au rôle de mère et épouse, en défense, comme il le dit, de valeurs traditionnelles chinoises. Et c'est depuis qu'il est au pouvoir que des militantes peuvent et sont jugées simplement pour avoir, par exemple, manifesté contre le harcèlement sexuel. Et d'ailleurs, l'histoire de Peng Shuai rappelle celle de Huang Xueqing, une autre chinoise en prison, dans un lieu inconnu et sans avocat, pour avoir fait des reportages sur les manifestations à Hong Kong et pour avoir tenté de lancer le mouvement MeToo en Chine. Bref, n'oublions pas que ce qu'est et ce que fait le gouvernement chinois, et puis un énorme soutien à toutes et tous celles et ceux qui résistent ou subissent les pleins pouvoirs et, de la Chine, que ce soit les femmes chinoises, les Ouïghours, les Hongkongais, les Taïwanais et les ouvriers chinois dont le pays n'est communiste que de nom.
Et on fait maintenant une petite pause musicale avec le morceau Pitch de ACS.
Tu veux valider ce monde d'étranges idées. C'est la tyrannie des plans chiffrés. J'ai écouté des blancs parler de racisme, ignorer les privilèges de leur blanchité. On rêve d'avenir émancipé. Mais le on fait référence à qui? L'unité est-elle vraiment acquise? Quand on laisse de tech les gens de cité. Non, non, là je pense aux étudiants qui souffrent, aux internats, aux livreurs qui subissent des cadences infernales. Fatima Wasak te dira ce que les mères valent. Tant de salissures à balayer dans cette terre sale. Donc rien à faire du ballon d'or. Ceux qui harcèlent les femmes ont tort. Dans mon cœur, Assa Traoré, Céline, Emmanuel Macron.
Faut les soulever comme les vies au ça et jette les vies au sale. Dis-moi comment est-ce que les vies sont ça. Faut péter tous les ponts, le vie au sable, climat paradoxal. Avant il fallait avoir un travail, maintenant il faut qu'on travaille. Pour avoir un travail. Pas le temps pour les blabla des commères. Faut que je me rende utile. Y'a des pantins futiles qui sortent tous à la ligne des écoles de commerce. Et puis rentrer chez moi comme le héros d'Homère. Ils ont deux grands mots pour dire que les femmes les briment. Ils n'ont plus rien à dire quand on parle de Marc Lépine.
Laisse les trans en paix, man. T'es homophobe, range tes vannes. Odeur de la révolte, man. Les carnies racontent là les flanges. Les maths parlent de l'âme des plantes. En mangeant mon croissant vegan. Pas de coups de tête que des coups de gueule. J'ai toute la révolte sur un doodle. J'ai recherché la paix. Je ne l'ai trouvée que sur Google. Ça me rend colérique. Rôle de genre nous méprise. Faudrait que j'aille sauver Peach. Mais Peach peut se sauver toute.
Plus le temps pour réfléchir. Divertissement m'encrasse les méninges. Pour être serein faut que je fasse le ménage. Les PDG face à nous je les vois comme des Eldiens équipés de seringues. Je me sens comme un pingouin dans le sud. J'entends que des wouah masculins. Chaque homme joue le bonhomme la brute. Mais le consentement dis-moi combien l'assure. Je suis dans le camp du loup pas celui de Pierrot. Chaque couplet est une évolution. Comme si j'étais un tétard qui trouvait la pire peau. Si l'on choque ton insouciance, on ne sera pas désolé. Inax au coup de chair, plus que des cas des os. Beaucoup qui meurent devant le silence des autres.
Et la finance des sols, crois pas que leur discours m'amadou grave. Ouais, j'en ai marre des fils crimes. Ici, où on traque la victime et pas le coupable. Pendant que tes rappeurs partent à Dubaï, certains la misère la portent à bout de bras. Faut lutter contre ceux qui monnaient à tout va. La prise de conscience peut se faire à tout âge. Pas de coups de tête que des coups de gueule. J'ai toute la révolte sur un doodle. J'ai recherché la paix, je ne l'ai trouvée que sur Google. Ça me rend colérique. Rôle de genre nous méprise. Faudrait que j'aille sauver Peach. Mais Peach peut se sauver toute seule.
Ok.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. C'est le Canu Info du lundi. Vous venez d'écouter ACS Pitch. ACS qui passera, on le redira, hein, mais en concert samedi prochain à la MJC Jean Massé suite à la projection du film L'Amphizède. On le redira dans l'agenda et on enchaîne tout de suite avec...
National.
Pour parler des mouvements de grève... Ouais, vas-y.
Pour parler des mouvements de grève, puisque ce samedi avait lieu dans plusieurs villes des manifestations anniversaires des 3 ans de mobilisation des Gilets jaunes contre la précarité et les bas salaires, mobilisation qui avait commencé en novembre 2018. Et alors donc qu'on fêtait les 3 ans des Gilets jaunes, cet automne, des mouvements de grève pour l'augmentation des salaires se multiplient dans différentes entreprises qui étaient jusqu'ici pas très touchées par ce type de mouvement social. opérations de filtrage devant des entrepôts logistiques, tractage aux abords d'une dizaine de magasins. Des salariés de l'entreprise de matériel de bricolage Leroy Merlin étaient en grève vendredi 19 novembre à l'appel d'une intersyndicale pour dénoncer la faiblesse des augmentations de salaire proposées par l'entreprise, ce qui est un mouvement un peu inédit dans cette enseigne. Deux jours de grève ont aussi eu lieu à Décathlon, les 16 octobre et 12 novembre, pour la première fois de l'histoire de l'entreprise. Alors qu'elle a versé 300 millions d'euros de dividendes à ses actionnaires pour l'année 2020 et 350 millions en juin 2021. Le groupe alimentaire Labeyri a aussi connu 3 semaines de grève jusqu'au 10 novembre sur son site des Landes. Le mouvement avait commencé le 16 octobre à 4h30, lancé par seulement une trentaine de salariés qui se sont retrouvés à 300 en quelques heures, alors que la dernière grève enregistrée dans cette entreprise datait de 2012. À Châteaulin, dans le Finistère, les salariés d'Eurofin, un groupe de laboratoires d'analyse, ont aussi manifesté. Le 19 octobre, on comptait 1 millier de grévistes à H&M. Chez le volailler industriel Arrivé Maître Coq, le dernier débrayage remontait à 2010 et la dernière journée de grève à 1989. Et le 4 novembre, plus de 600 des 2000 salariés des sites vendéens du groupe étaient en grève. Et puis chez Norpin à Val-de-Sanne, en Seine-Maritime, qui font des pains industriels, notamment pour la marque La Boulangère, les salariés ont aussi fait 2 semaines de grève pour demander une augmentation de 150 euros net par mois. La grève a commencé symboliquement le 7 novembre au soir, en même temps que le départ de la Transat Jacques Vabre, où la boulangère bio sponsorise un bateau. Les salariés dénonçaient le fait qu'il y a de l'argent pour ça, mais pas pour revaloriser les petits salaires de l'entreprise. La plupart de ces mouvements sont poussés par la base et pas par les organisations syndicales. Alors que la part de la valeur ajoutée produite par les salariés qui leur revient ne fait que baisser depuis les années 80, puisqu'elle est passée de 68% à 60% dans les pays européens et de 65% à 58% aux États-Unis, les salariés recommencent à s'organiser pour l'augmentation des salaires. Et il est assez encourageant de voir ces grèves se multiplier, en espérant que ça prépare aussi une mobilisation massive contre les réformes antisociales à venir, notamment celle des retraites.
Et puisqu'on reparle des gilets jaunes, un petit retour dans le passé, on va écouter une musique que vous reconnaîtrez sûrement. Enfin, si on la trouve
si
sur la
jamais.
Clé.
Jamais.
On la trouve pas, mais donc c'était Gilets jaunes.
Malheureusement, nous n'avons plus cette musique en stock.
Elle doit être trop vieille ou alors censure. On enchaîne du coup toujours au national et là on parle de l'extrême droite et de la manifestation de samedi à Paris.
Oui, ce samedi 20 novembre, il y avait une manifestation contre les violences sexistes organisée par le collectif Nous Toutes qui a rassemblé environ 50 000 personnes à Paris, donc ce qui est un gros succès. Rappelons quand même déjà que certains militants et certaines militantes trans ont déploré le choix de la date, puisque le jour international de lutte contre les violences faites aux femmes est officiellement le 25 novembre, alors que le 20 novembre, c'est le TDOR, le Transgender Day of Remembrance, journée du souvenir trans en français. Je suis sûre que vous avez adoré mon accent. Cette journée vise normalement à rendre hommage aux personnes trans assassinées parce qu'elles sont trans et à attirer l'attention sur les violences subies par les communautés trans. C'est la raison pour laquelle dans plusieurs villes, des collectifs plus larges, incluant les collectifs Nous Toutes locaux, ont décidé de manifester contre les violences patriarcales non pas samedi dernier 20 novembre, mais plutôt samedi prochain 27 novembre, comme à leur habitude, et pour conserver le 20 novembre comme jour de visibilité trans. Cela étant dit, après la manifestation appelée à 14h à République à Paris, il était tout de même prévu de pouvoir rejoindre la commémoration ayant lieu à 18h à l'hôtel de ville pour la journée donc du souvenir trans. Avant ça, l'extrême droite s'en est prise à cette fameuse manifestation Nous Toutes parisienne. Le collectif d'extrême droite prétendument féministe Némésis a organisé une action de provocation raciste et islamophobe. Donc une quarantaine de militantes de cette organisation se sont pointées dans la manifestation avec une grande banderole où il était écrit que 99% des Afghans favorisent la charia et que la haine des femmes n'est pas un enrichissement culturel. Donc une belle provocation raciste et islamophobe sous prétexte de féminisme. Cette action n'a duré que quelques minutes et en fait il s'agissait surtout de provoquer une réaction de la part du cortège de nous toutes pour pouvoir ensuite laisser les militants armés de barres de fer qui entouraient les militantes de Némésis s'en prendre aux gens du cortège nous toutes qui réagissaient et qui dénonçaient cette action raciste et islamophobe. Donc ces militants d'extrême droite constitués en service d'ordre de Némésis s'en sont rapidement pris à celles et ceux qui dénonçaient l'action, lançant des insultes sexistes au passage comme salope ou bande de pute et s'en prenant physiquement aux manifestantes féministes et aux militants antifascistes présents. Donc dans les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on voit clairement l'extrême droite faire usage de gazeuses, tenter aussi de frapper un manifestant au sol avec un énorme poteau en fer. Parmi les militants d'extrême droite, on reconnaît plusieurs têtes connues de la Cocarde étudiante, un syndicat étudiant d'extrême droite, de l'Action française ou encore des Zouaves Paris. Ils ont été chassés des rangs de la manifestation au cri de « cassez-vous ». Suite à cette action violente, Alice Cordier, militante identitaire et présidente de Némésis, a revendiqué l'action sur les réseaux sociaux en inversant la réalité des événements. Elle accuse les militants et militantes de nous toutes et ceux de la Jeune Garde de les avoir violemment agressés en prétendant que les antifascistes s'en sont pris à 40 filles de 20 ans qui font 50 kilos alors qu'on voit quand même des photos avec un énorme cortège de militants fachos avec des barres de fer. Et elle laisse également entendre qu'elle veut porter plainte contre la Jeune Garde et en particulier contre son porte-parole Raphaël Arnaud. Il est clair que l'action de Némésis n'était destinée qu'à provoquer la manifestation organisée par nous toutes et d'en profiter pour tenter de répandre une haine xénophobe, raciste et islamophobe sous couvert de féminisme. Pour l'extrême droite, les droits des femmes ne sont qu'un prétexte pour tenter de véhiculer ses idées réactionnaires et Némésis ainsi que les organisations comme la Cocarde ou l'Action française n'ont que faire du nombre de violences sexistes et sexuelles qui augmentent ces derniers mois. L'extrême droite n'a rien à faire dans nos manifestations, que ce soit celle contre le pass sanitaire ou les manifestations féministes.
Et puis on va continuer avec un petit jingle au local.
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 Et au local, on part à la Guillotière.
Ouais, c'est littéralement n'importe quoi depuis plus d'une semaine sur la place du Pont ou la place Gabriel-Péry. La place du Pont donc est occupée en permanence par des dizaines de camions de CRS, de voitures de la Nationale et de BACE en tout genre. Cette vaste opération policière qui a de lourdes conséquences, on va en parler un peu plus tard, hein, est aussi une énorme opération politico-médiatique menée de concert par la métropole, la mairie, la préfecture, et qui laisse la place aux discours tous plus réactionnaires les uns que les autres, aux discours xénophobes, aux discours racistes, ce qui doit d'ailleurs profondément réjouir les réactionnaires et autres fachos du collectif La Guillotière en colère. Alors je vous parlais de la métro, de la préf qui viennent se pavaner. À titre d'exemple, ce vendredi, il y avait pas moins de 130 policiers. C'était une grosse opération, énormément de médias. On avait le préfet Pascal Mélos, le procureur Nicolas Jacquet, le maire Grégory Doucet qui se gargarisaient du nombre de contrôles et d'interpellations sur l'année. Par exemple, le préfet donc s'est félicité d'avoir procédé à plus de 4000 contrôles durant l'année, 1000 interpellations aboutissant à 75 incarcérations. Tout ça évidemment massivement relayé par les médias. Alors d'ailleurs, puisqu'on parle des médias, un petit florilège des titres de presse ou extraits d'articles ces derniers jours. Alors le Figaro du 20 novembre, descente de police massive dans le quartier de la Guillotière, livrée au trafic et à l'insécurité. Le Figaro toujours, hier, en plein cœur de Lyon, la Guillotière livrée aux trafiquants. Le Point, il y a trois jours, Lyon, la démonstration de force de l'État à la Guillotière. Le Progrès, il y a trois jours, insécurité, les grands moyens déployés à la Guillotière, ou encore, et je vous passerai les autres, CNews, il y a deux jours, opération d'ampleur à la Guillotière, 22 interpellations. Car oui, l'une des conséquences immédiates de cette occupation quasi permanente, au moins en journée, une partie de la nuit, et massive, hein, des flics place du pont, eh bien c'est le nombre de contrôles et d'interpellations qui a explosé. Alors c'est difficile d'en connaître le nombre, mais tous les jours, depuis plusieurs jours, il y a des rafles de sans-papiers. Ils se font interpeller par dizaines, c'est vraiment horrible. Beaucoup d'entre eux seraient d'ailleurs mineurs isolés, parce que oui, c'est aussi le gros délire politico-médiatique du moment. Tout ou presque viendrait d'eux, ils seraient drogués, violents, dealers. C'est d'ailleurs quand même assez ouf que ça vienne pile poil au moment où un certain Éric Zemmour passe en procès pour complicité de provocation à la haine et injure raciale, puisqu'il avait qualifié les mineurs isolés étrangers, je cite, de voleurs, assassins et violeurs, tranquillement sur CNews en septembre 2020. Alors, en ce qui concerne donc les propos sur les mineurs isolés étrangers à la Guillotière, c'est le même festival raciste et xénophobe. On rappelle quand même que pour Lyon, c'est à la métropole, via la MEOMI, de prendre en charge les mineurs isolés étrangers, en ce qui concerne l'aide sociale à l'enfance, le logement, mais qu'elle les laisse massivement, voire très massivement, à la rue. Bruno Bernard, qui est le président de la métropole, a quand même réussi à affirmer sur BFM TV Lyon il y a 3 jours que ce n'était pas à la métropole de les prendre en charge, ce qui est quand même profondément scandaleux, puisque si, c'est bien à la métropole de les prendre en charge, et ce, depuis plusieurs années, puisqu'elle a récupéré ses prérogatives du département. Alors, dans cette affaire, de toute façon, tout le monde a tendance à se rejeter la balle, la droite notamment, et la préfecture, donc la droite, attaque Europe Écologie Les Verts sur leur gestion catastrophique de l'insécurité. C'est un festival de n'importe quoi. Alors, pour ne citer que lui, Gérard Collomb, par exemple, sur BFM TV Lyon, a raconté que Bruno Bernard ne voulait pas gérer les problèmes de sécurité, que même, attention, il était contre la vidéoprotection et prêt à accueillir tout le monde via notamment les journées de l'hospitalité. Alors, quand on voit, quand on se rappelle le programme d'Europe Écologie Les Verts sur la sécurité, notamment dans les quartiers comme la Duchère ou la Guillotière, et quand on voit l'application particulièrement sécuritaire de ce programme par les élus écologistes, que ce soit à la mairie ou à la métropole, ça fait doucement rigoler, ou plutôt grincer des dents. Parce que ce qui ne fait pas du tout rigoler, effectivement, c'est la place du pont militarisée, complètement vide. Ce qui rend fou de joie les réactionnaires de la Guillotière en colère, qui, eux, par ailleurs, n'arrêtent pas de publier sur les réseaux sociaux des photos de la place complètement vide, en disant que c'est génial, qu'enfin on retrouve le quartier. Alors, on se demande d'où ils sortent, ces gens de la Guillotière en colère. Puisque la Guillotière, la place du pont notamment, c'est aussi la place dite historiquement des hommes debout. C'est une place vivante, occupée, non pas par les flics, mais par ses habitants et habitantes. Aujourd'hui, hier et ces derniers jours, c'est une place, donc non seulement vide, mais une place où le racisme et la répression font rage. Il n'y a qu'à voir le nombre de témoignages des interpellations violentes et racistes de ces derniers jours. Je vais vous en citer une, par exemple. Donc, c'est un habitant du quartier qui nous dit « Je sors du casino Place du Pont, la gomme police Mumu, donc ce qui correspond à la police municipale, arrive et chasse une Rome qui était en train de poser des affaires à vendre, genre vêtements. Un mec de la place leur dit « C'est pas bien, vous vous attaquez aux pauvres comme ça ». Le flic répond aux pauvres, aux cafards, oui. Car c'est bien aux pauvres, aux personnes issues, supposées issues de l'immigration, pardon, que la mairie, la métropole, la préfecture et ses flics s'attaquent. Ce délire répressif, c'est en fait une simple mascarade, même si elle a des lourdes conséquences. C'est une simple mascarade pour fournir et alimenter la soupe raciste et xénophobe de cette période préélectorale. Et nous, ça, à la Guillotière, eh bien, on n'en veut pas. La Guillotière, c'est ni aux flics, c'est ni aux promoteurs immobiliers qui doivent, eux, se frotter les mains et qui se frottent les mains depuis longtemps, mais qui doivent se frotter les mains de ces opérations policières. La Guillotière, elle n'est pas à vendre. Nous, on est pour une Guillotière à une place du pont qui soit solidaire, populaire. Et là, je crois bien et on croit bien qu'il n'y a pas le choix. Il va falloir s'organiser pour résister à cette offensive.
Voilà, et puis pour terminer l'émission, donc on va passer à notre dernière rubrique, à savoir la rubrique Agenda, à commencer par demain, où vous pouvez aller au dernier goûter solidaire d'une série de goûters qui ont eu lieu suite à la journée des droits de l'enfant du 20 novembre. Donc demain, c'est à l'école Henri Wallon. C'est un goûter organisé par Jamais Sans Toi qui recense 123 enfants à la rue. Et c'est au 1 avenue Jean Moulin à Vaux-en-Velin.
Et demain toujours, il y a une discussion organisée au Clameur à 18h, 23 rue d'Aguesseau à Lyon 7e, sur la réforme de l'assurance chômage.
Et puis mercredi, à l'ECG, l'espace communal de la Guillotière, a lieu la permanence de santé, c'est de 16h à 20h. Cette permanence a pour but de fournir aux personnes qui seraient un peu perdues face au milieu médical une écoute, une orientation vers des structures selon les besoins, l'explication de documents en lien avec la santé, l'accompagnement à des rendez-vous de santé, etc. Et elle s'adresse à tout le monde avec ou sans titre de séjour. Et c'est au 45 rue Bechevelin.
Jeudi 25 novembre à 17h a lieu un rassemblement devant l'ENS de Lyon. C'est l'intersyndicale de l'ENS de Lyon qui appelle à participer à un pré-rassemblement contre les violences sexistes et sexuelles, puisque à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l'intersyndicale dénonce 27 agressions sexuelles et viols d'étudiantes qui se sont produits à l'ENS de Lyon sans qu'ait été mis en place aucune sanction, une seule procédure disciplinaire, ni plan de prévention et de protection des victimes. Le rassemblement vise donc à interpeller la gouvernance de l'ENS de Lyon pour dire que ces étudiantes ont droit à la justice, à la vérité et à la réparation afin que ces violences ne se répètent plus. C'est donc à 17h devant l'ENS de Lyon jeudi. Et puis ça, on enchaînera donc avec samedi la manifestation à proprement parler, la manifestation lyonnaise contre les violences faites aux femmes qui a lieu place Bellecour à 14h.
Et puis samedi toujours, si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre au Clameur c'est à 15h, un grignotage plus bar, un soutien aux inculpés du Limousin, donc suite aux arrestations violentes qu'il y a eu cet été dans la Creuse.
Et samedi toujours, on l'a déjà dit, mais il y a une projection organisée du documentaire sur l'amphizède à la MJC
Jean Massé.
À quelle heure?
À 20h, la projection.
Avec un petit concert d'ACS qu'on a entendu au début de cette émission. Et puis samedi toujours, de 15h à 18h, il y a une rencontre avec des activistes soudanais et soudanaises de Lyon à l'Amicale du Futur, au 31 rue Sébastien Griff, à Lyon 7e.
Et sur ce, c'est la fin de notre émission. On vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, bah oui. On va vous remettre les bandes continues.
Il vous plaira forcément.
Des tas de bidules et de machins, l'enfer dans lequel nous vivons est pavé de bonnes inventions. L'indispensable truc inutile qui résout les problèmes qu'on se pose pas, si miniature et discret qu'il faut le montrer, sinon on le voit pas. Si tu ne l'as pas encore, bravo, c'est que la pub n'est pas arrivée à te faire entrer dans le panneau. On va bien te l'offrir sans tarder. Comme j'ai pas de téléphone portable, mais que j'ai plein de potes qui en ont, pour pas trop me faire chier à leur table, j'ai une vieille Game Boy d'occasion. Avec tes piercings au menton et aux lèvres, t'as l'air rescapé d'une partie de pêche comme un brochet, la gueule transpercée d'hameçon. Ton treillis, voilà que même les vieilles se mettent à trouver ça très chic, l'été prochain contre le soleil, et c'est donc un képi de flic. Les bidules nulles et les machins moches, j'en ai plein le cul, on en a plein les poches. Les bidules nulles et les machins moches, j'en ai plein le cul, on en a plein les poches. Oh, tout
ces trucs qu'on nous vend pour pas ressembler à nos voisins, pour être différents justement, tout le monde a les mêmes secrets. T'exagères, y'a des différences, observons deux groupes de rappeurs, on peut avec un peu de patience jouer au jeu des sept erreurs. Finalement on va bien se marrer si un jour débarquent nos clones. On leur dira trop tard, on est déjà tous des copies carbone. Oh les pilules nulles et les machins moches, j'en ai plein le cul, on en a plein les poches. Les pilules nulles et les machins moches, j'en ai plein le cul, on en a plein les poches.
Les pilules nulles, les machins moches, plein les poches, les pilules nulles, les machins moches.
C'était dans l'ordre Corbier, Nucléaire, ensuite Maluma avec Yarab, et enfin les Malpolis avec les Bidules Nuls et les Machins Moches. Radio Canu, la radio pas moche.